Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. J'ai réfuté totalement ce qui
moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de choisir Radio Okapi pour vous informer. Et parole aux auditeurs, votre cadre d'échange citoyen vous propose ce nouveau numéro. Le calendrier réaménagé par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, fixe la rentrée scolaire 2021-2022 au lundi 4 octobre prochain, soit dans une semaine. Entre-temps, l'intérieur menace d'entamer un mouvement de grève et conditionne cette rentrée à la révision à la hausse du salaire de l'enseignant. Il propose pour un mois gradé le salaire de $400 par mois. De son côté, la synergie de l'intersyndicale des enseignants à Kinshasa continue à exiger la mise en place d'une commission paritaire pour passer en revue tous les problèmes auxquels fait face le secteur. Alors comment réagissez-vous face à cette menace de grève à quelques jours de la rentrée scolaire 2021-2022? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 09 97 06 6330 ou encore au 09 97 06 49 69 pour votre intervention en direct. Alain Goy et Jocelyne Mukendi concourent à la production et à la réalisation de cette émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung. Anji, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, nous avons en ligne Jean Bosco Pouna. Bonjour Jean Bosco.
Bonjour, JR.
Alors, vous êtes le secrétaire général de la synergie de l'intersyndicale des enseignants. Je crois que c'est bien cela.
Porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC. Secrétaire général du SYNECAT.
Alors, hier, c'était l'assemblée générale. Alors, qu'est-ce qui est sorti de cette assemblée?
Bon, il faut dire que nous avons tenu l'assemblée générale des enseignants le samedi 25 et à l'issue de cette assemblée générale, comme il fallait s'y attendre, les enseignants ont décidé de ne pas recommencer le travail à la date fixée par le gouvernement. Vous savez que le gouvernement, en sa qualité de pouvoir organisateur de l'enseignement, il lui revient à juste titre de pouvoir fixer la rentrée, mais vous savez que il y a des enseignants qui travaillent dans le secteur qui, de l'autre côté, lorsque les conditions de travail ne sont pas réunies, ils ont le droit, effectivement, de s'opposer au dictat du gouvernement, à l'instruction du gouvernement. Donc, l'Assemblée générale a décidé que pour les quatre, aucun enseignant ne va se présenter à l'école. Il faut absolument que le gouvernement règle un certain nombre de litiges qui ne lui permettent pas aujourd'hui de bien faire le travail sur le terrain. Entendez? Vous avez le problème du barème salarial qui doit se référer au barème de Mboudi parce que le chef de l'État, lors des consultations, était sensibilisé par rapport à ces barèmes. Et il a fait la promesse d'envisager la possibilité de payer ces barèmes. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, il y a les problèmes liés au paiement des nouvelles unités. On ne peut pas comprendre que nous ayons toujours des enseignants qui ne sont pas payés devant les élèves. Vous comprenez? Donc c'est un véritable danger. Il y a également les problèmes liés aux zones salariales. Les enseignants des provinces, des territoires n'ont pas les mêmes salaires. Nous pensons que c'est une discrimination. Et enfin, il y a cette question relative à la retraite irrégulière, injuste, même indigne qu'on veut imposer aux enseignants face à tous ces problèmes qui n'ont pas trouvé de solution parce que ça fait plus d'un mois que le cahier des charges a été déposé au gouvernement. Aucune réponse. On a demandé qu'on puisse convoquer la commission paritaire. On est en train de la convoquer dans la précipitation en violant tous les principes de convocation d'une commission paritaire. Voilà, les enseignants ont décidé de ne pas recommencer le travail et les parents doivent garder les enfants à la maison.
Alors ça commence un peu à ressembler finalement à un refrain qui ressemble en même temps à un disque débrayé. Parce que personne ne vous écoute.
Non, ce n'est pas un refrain. Je crois que tout le monde se souvient du combat mené par le SYNECAT et par la synergie. Nous avons porté le combat de la gratuité de l'enseignement. Vous voulez me dire qu'aujourd'hui, la gratuité, c'est un refrain? Non. Les syndicats, je vais parler des syndicats pertinents. Je ne parle pas des syndicats clients. Mais je vais parler des syndicats pertinents. La synergie, c'est une structure pertinente des enseignants. Nous avons milité en faveur de la gratuité. La gratuité est arrivée. Et nous avons soutenu la gratuité. Nous l'avons accompagnée pendant les 2 ans. Parce que nous avons senti la bonne volonté du chef de l'État qui a entériné cette demande sociale. Mais aujourd'hui, on se rend compte, 2 ans après, qu'il y a beaucoup de préalables, il y a beaucoup de litiges qui sont restés non résolus. Voilà pourquoi, en tant que syndicat responsable, nous interpellons une fois l'autorité à pouvoir se mettre autour d'une table dans une commission paritaire et donner des réponses. Vous avez même suivi notre assemblée générale, les enseignants ont reporté la rentrée pour le 1er novembre. 1 mois après, je crois que le gouvernement a le temps de pouvoir chercher les moyens et donner un nouveau barème aux enseignants pour que les enseignants ne continuent pas à travailler dans la précarité parce que les enseignements ne se donnaient plus normalement. Donc pour nous, si le gouvernement reporte la rentrée pour le 1er novembre, il a 1 mois pour trouver les moyens parce que les enseignants ne vont pas rentrer sur base des promesses une fois de plus, ça ne marchera pas.
Alors, vous aviez soutenu cette gratuité qui, selon certains observateurs, a plus créé des problèmes qu'elle n'a résolu.
Non, la gratuité n'a jamais posé plus de problèmes. Ce qui a posé plus de problèmes, c'est le système de prise en charge des enseignants par les parents. C'était un système discriminatoire, injuste, un système qui ne pouvait pas permettre à tous les enfants de pouvoir accéder à l'éducation, à l'école. Donc nous avions, avec la gratuité, récupéré des millions d'enfants. Je crois qu'aujourd'hui, personne ne peut
Jean Bosco,
la table ronde a précisé que la gratuité coûtait 2 milliards de poussières. Mais il faut que le gouvernement arrive à trouver ses moyens pour les comptes de l'éducation. Regardez, J.R. Aujourd'hui, nous parlons du budget de l'État et c'est en discussion au Parlement, c'est le mois budgétaire, mais est-ce que les politiques doivent s'accaparer toujours les moyens, le revenu de notre budget? Vous avez plus de 70% de ces budgets entre les mains des politiques, de la présidence, de la primature, des ministres, et aux fonctionnaires, aux agents de l'État, aux enseignants, on laisse les miettes, ça ne peut pas marcher. Donc la gratuité qui est une disposition constitutionnelle, ça a été une très bonne chose, ça a soulagé nos familles, ça a soulagé les élèves, les enfants. Mais maintenant, en tant que grande nation, nous devrons aller relever les différents défis de cette gratuité. Parmi les défis, il y a un barème pour que le travail se fasse correctement, pour éviter la démotivation des enseignants. Il y a des classes qu'on doit désengorger, parce que maintenant les enseignants s'attendent à la mort. Vous avez 90 élèves dans une salle de classe, et puis vous avez 190 000 francs. Ça ne se justifie pas. Donc nous avons plusieurs défis, nous avons dit au gouvernement d'y aller progressivement, malheureusement, les choses n'ont pas tellement changé.
Oui, mais
le dialogue social aujourd'hui, apparemment, il y a un véritable déficit et il faut qu'on change.
Oui, parce que vous ne l'avez pas reconnu qu'il y a eu plus de problèmes, mais si les informations à notre possession s'avéraient vraies, je crois qu'il y a eu des cas des morts des enseignants, comme vous venez d'ailleurs de les mentionner, et il y a eu dans certaines écoles à Kinshasa, même en province, des enseignants qui ont trouvé la mort. Parce que finalement, le rythme de travail, le volume du travail ne correspond pas, n'est pas au prorata de la rémunération. Et c'est ce qui a fait que voilà, il y a eu des dégâts.
Mais voilà le travail du syndicat. Les syndicats militent en faveur du grand nombre. Et notre combat a été celui de la gratuité. Nous avons amené les gouvernants à comprendre qu'il était plus que temps de donner de la chance à tous les enfants d'aller à l'éducation, d'accéder à l'école. Ça, c'est une chose, et nous félicitons le gouvernement pour avoir entériné cela. Mais nous avons donné 2 ans, on a fonctionné difficilement, c'est vrai. Les enseignants ont connu beaucoup de problèmes parce que, eh bien, les conditions de travail ne s'y prêtaient pas. Mais maintenant, nous disons, à la 3e année, les choses doivent changer. Et je crois que le pays a suffisamment de moyens, avec un minimum d'organisation, avec la réduction des trains de vie de tous ceux-là qui toucheraient 10 000 $, 13 000 $, le Sénat est en train de négocier. un salaire comme ça. Je crois que c'est injuste. Aujourd'hui, où plus que jamais, je crois que les enseignants ne vont plus continuer à travailler pour plus ou moins 100 dollars. C'est vraiment une insulte. Et vous ajoutez à cela d'autres problèmes. On désactive irrationnellement les écoles. Comment vous pouvez comprendre, par exemple, à Tchangou, 60 écoles désactivées, toutes ces écoles-là, des écoles de renom, des écoles qui datent, des écoles qui ont une population scolaire, qui ont des enseignants, on les proclame écoles à désactiver. Mais je crois que ce n'est pas quand même juste. Alors, tous ces problèmes font qu'aujourd'hui, en tout cas, les enseignants ne sont pas prêts à pouvoir recommencer le travail. Et même les ministres de l'EPC s'en rendent bien compte.
Voilà. Alors, la décision est prise. Pour vous, il faut reporter pour le 1er novembre. Déjà, ce secteur a été touché comme tant d'autres avec la Covid-19. Mais quand vous repoussez au 1er novembre, est-ce que vous n'avez pas l'esprit de rendre raison?
Mais bon, Jérémy, lorsque nous enseignons, lorsque nous mettons en place le sous-enseignement, au lieu de pouvoir enseigner confortablement nos élèves pour qu'ils bénéficient d'une éducation de qualité. Mais ça va être un problème. Le problème des calendriers, c'est un petit problème. Je crois que ce qui est plus important, c'est donner un contenu à la gratuité. Aujourd'hui, 2 ans après, on se rend compte que le gouvernement n'a pas fourni assez d'efforts pour donner un contenu à la gratuité. Regardez, ce qui a été fait l'année passée, même l'année antérieure, mais nous tous, nous savons comment on a négocié le passage des élèves d'une classe à une autre. Donc, je crois que ce système doit s'arrêter. Il faut absolument que le gouvernement trouve des moyens pour que nous ayons une éducation publique de qualité à donner à nos élèves. Les calendriers doivent être réaménagés, rien à faire pour nous. Si le gouvernement s'engage à pouvoir régler les problèmes, regarde la retraite irrégulière, il y a des enseignants qu'on a envoyés à la retraite qui sont remplacés, qui n'ont encore rien. Et dans les écoles, il y a de nouvelles personnes qui doivent travailler à leur place. Un dysfonctionnement sans précédent. Nous pensons qu'on ne gère pas le secteur de l'éducation de cette manière-là. Il faut absolument... Et nous avons eu le mot juste. Lorsque nous avons rencontré le chef de l'État, nous lui avons dit que le secteur de l'éducation était un secteur stratégique, un secteur même de souveraineté. Mais on ne peut pas le gérer comme ça avec des enfants qui vont avoir des diplômes mais qui n'ont pas véritablement un bagage, et ça sera un véritable
sort. Est-ce que le syndicat a eu le temps de rencontrer le ministre de tutelle cette semaine, par exemple?
Bon, il faut dire que le ministre de tutelle, nous lui avons écrit, nous lui avons adressé plusieurs correspondances. Souvenez-vous, le 13 du mois, je crois, du mois de juillet, nous étions en sit-in. Oui. Le ministre a promis qu'il allait recevoir la synergie. Bon, jusque-là, rien n'avait été fait.
Oui, parce que nous avons vu, le ministre, la semaine passée, a accordé quand même des audiences aux journalistes culturels, à d'autres personnalités, mais pourquoi pas aux syndicats, parce que ça urge.
Mais, vous savez, il reçoit un groupe de syndicalistes qui ne sont pas porteurs des revendications. Mais c'est vraiment ne pas être à sa place. Parce que vous ne pouvez pas rencontrer les gens qui ne portent pas la revendication. Aujourd'hui, tous les enseignants le savent que leurs aspirations, leurs revendications sont canalisées par la synergie. Parce qu'eux sont affiliés, vous les avez vus en Assemblée Générale, que ce soit ici à Kinshasa ou dans les provinces, tous ces enseignants-là sont de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC. Parce qu'ils ont compris quelles sont les structures qui défendent la cause des enseignants, la cause de l'éducation. Mais le ministre s'est complet à pouvoir recevoir des syndicats clients, des syndicats qui n'ont pas véritablement, qui ne portent pas véritablement les aspirations des enseignants. C'est bien dommage, parce que ce qui arrive aujourd'hui, je crois que c'est à mettre dans les comptes du ministre de l'EPST, dont le leadership aujourd'hui est très faible. Regardez, une commission paritaire est convoquée, et une commission paritaire qui a été demandée par la synergie. Mais la synergie n'est pas impliquée directement. C'est hier, dimanche, qu'on était en train de chercher où se trouvait la synergie. Je crois que c'est quand même irresponsable. Une commission paritaire doit avoir un comité préparatoire. Le comité préparatoire, c'est ce comité qui va déterminer la durée des travaux, les matières à débattre, le nombre et la qualité des participants et définir les TDR. Aujourd'hui, tout ça n'est pas réuni, mais on va réunir 300 personnes, figurez-vous, près de 300 personnes pour une commission paritaire des enseignants avec une surreprésentation des membres du gouvernement. Je crois que là, il n'y aura pas de réponse et donc la synergie maintient.
Le 1er novembre, donc la rentrée c'est pour le 1er novembre selon la synergie. Est-ce que ce mot d'ordre sera respecté? Wait and see. Mais nous vous gardons en ligne, Jean Bosco Puna, porte-parole de la synergie. Le temps d'ouvrir les standards et d'accueillir les auditeurs qui ont désiré intervenir dans cette émission. Parole aux auditeurs qui défend en tout cas les desiderata des enseignants et de l'intersyndicale du Nord et Sud Kivu qui se sont associés à ceux de Tanganyika pour revendiquer l'amélioration de leur salaire. 081-890-6330 ou encore le 081-890-4969 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Simon, vous êtes à Matadi. Bonjour Simon.
Oui, bonjour J.R. et bonjour à tous nos auditeurs qui nous suivent de partout. Et nous sommes heureux que vous puissiez à tant convenable prendre comme sujet celui de l'enseignement. Au fait, je pense que nous sommes vivants et que nos oreilles entendent et puis nos yeux voient. Vous imaginez, nous pensons que je suis d'abord porte-parole, nous sommes de la synergie parce que nous avons compris que nos revendications sont portées par la synergie. Et les ministres des sous-secteurs qui gèrent l'EPC ne veut pas collaborer avec les syndicats porteurs de revendications. Il va collaborer avec les syndicats ventriotes. Vous allez voir, aujourd'hui, on parle de l'union sacrée. Je mets et je peins un tableau simple et très léger. Vous allez voir, en 2019, il y a eu table ronde. Il y a eu une série de revendications ou sinon série d'activités qui devraient être menées pour l'enseignement. Et là, il y avait un gouvernement qu'on appelait FCC, cache de triste mémoire, que nous tous nous avons condamné. Ce gouvernement de FCC cache condamné par tout le monde, dont moi-même, déjà au mois de septembre, a pris l'option de payer les frais de fonctionnement des 50 000 écoles primaires. Et c'est fait en 4 mois. Donc de septembre à janvier, ce gouvernement de FCC Cash que nous avons condamné a payé 132 614 NP et c'était fait dans 4 mois. Ce gouvernement de FCC Cash que nous avons condamné dans 4 mois, il a payé 58 000 nouvelles unités, même si c'était politisé par le ministre qui a été arrêté parce qu'il a pris déjà des membres de partis politiques qu'il a payé ignorant ce qui était avant, mais du moins c'est quand même un acquis. Ce gouvernement a réduit de manière drastique pendant 4 mois les frais de fonctionnement des écoles secondaires. C'est-à-dire ont été réduits à la baisse, ce qui a réjoui tout le monde. Et ceci dans 4 mois. Vous imaginez ce gouvernement en 2019, d'où il venait, il n'y avait encore rien. Nous arrivons au gouvernement qu'on appelle Union, c'est comment on appelle ça?
Union sacrée,
et dont les acteurs sont qualifiés de warriors. Je vous dis, ils ont déjà plus de 7 mois. Aucun geste positif, aucun, plus de 7 mois. Ils ont l'IGF qui fait de l'argent, qui est en train de travailler de façon que le gouvernement récupère l'argent. Plus de 7 mois, aucun signe. Alors que le gouvernement que nous avons condamné de FCC Cash a montré des signaux forts
fort.
Déjà dans 4 mois qu'ils étaient prêts. Depuis qu'on a mis FCC, l'Union Sacrée, plus rien ne fait. On dirait qu'on a arrêté pouf ce qui a été fait.
Et vous devez Simon Siloulou, la crainte de la population. Nous risquons encore d'assister à ce que nous appelons le chien à bois, la caravane passe, parce que chaque année, c'est toujours le même refrain. Vous menacez d'aller en grève, vous le faites peut-être les deux premières semaines, et puis vous allez revenir encore sur...
Parce que, imaginez, les enseignants ont été témoins. Nous, l'enseignement, ce sont eux qui ont beaucoup plus payé le prix de la COVID-19. Vous imaginez la fréquence des décès au Congo central avant 2009, avant 2020, c'était parfois 26, 27 par an. Mais maintenant, nous sommes passés de ça à, pour atteindre les proportions, j'ai vérifié au service de rente et survie, on est dans les 160-187 décès par année. Pourquoi? Parce que la gratuité que nous avons acceptée, pour laquelle nous avons lutté, a provoqué, a augmenté l'offre scolaire. L'offre scolaire qui a augmenté a provoqué comme conséquence les ratios entre élèves maîtres, élèves enseignants, a été augmenté de manière exponentielle, de façon que l'enseignant devait quadrupler des efforts mentaux, physiques, intellectuels et tout ça. Et la COVID qui est arrivée, il fallait maintenant élargir les salles de classe parce qu'il faut un ratio de 2 élèves par banc pupitre. Et il faut élargir des salles. Donc, la charge horaire a été réduite à la hausse. Et tout ça, c'est au prix de grands sacrifices comme ça, mais auquel le gouvernement est resté insouciant aux efforts des enseignants. Et c'est pourquoi, nous, le 2 octobre, tous les enseignants, d'ailleurs, il y a déjà qui viennent à la TADI, pour l'Assemblée, j'ai tellement des décisions
de la
qui ont été déjà prises à titre ça. Donc, à partir de 2, nous serons là. Et puis, vous devrez savoir ceci. Le 1er novembre, ce n'est pas la rentrée scolaire, parce que si les conditions, les gouvernements ne répondent pas aux revendications, en tout cas, nous allons rester éternellement à la maison.
À la maison.
Et nos anciens
élèves qui sont au pouvoir, est-ce que cette fois-ci, vous allez maintenir ça? Parce que ça devient un refrain, vous dérangez les parents, achètent les habits.
La maison qu'on attendait pour rentrer, c'était la prime des parents. Vous savez, quand il y a rentré, nous sommes en grève, les parents brandissent l'argent à l'école. Voilà, nous avons l'argent venu. Et les enseignants qui viennent, de 2 mois, ils n'ont plus à manger, ils n'ont plus quoi, ils les cédaient facilement. Mais maintenant qu'il n'y a pas de prime des parents, parce qu'en grève, je dis, nous irons toujours prendre notre salaire. Donc, au lieu d'aller se tracasser, nous sommes déjà dans les champs. Nous avons initié des programmes, pour les enseignants, des cultures, là. Nous allons continuer avec ça.
Nos anciens des activités champêtres. Merci beaucoup.
Nous avons enseigné hier, qui sont aujourd'hui au gouvernement, et qui prennent les décisions contre nous, ils viendront eux-mêmes enseigner les enfants des mères et
voilà.
Des pères.
Parce merci que beaucoup. Merci. Cette fois-ci, vous allez maintenir votre décision. Merci beaucoup, Simon. Alors, Franck, vous êtes à Vienne. Franck, bonjour.
Bonjour, mon ami Gérard. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les amis avec qui nous allons nous échanger.
Oui, quelle est votre contribution, Franck?
Oui, merci beaucoup. Merci aux interventions que je venais de, pour les interventions que je venais de suivre. Je constate, moi, personnellement, que c'est depuis déjà 2 décennies que nous assistons à cette situation de mouvement de grève au début de chaque rentrée scolaire. Et depuis déjà 2 décennies, on va de promesse en promesse, mais sans que les choses changent de manière consistante. Par ailleurs, au regard de toutes ces répartitions, telles que déjà connues sur les proportions d'exécution du budget, et si c'est vraiment ce qui va se faire, il y a lieu de nous demander, nos citoyens de la classe moyenne, il y a lieu de nous demander si nous avons vraiment des dirigeants en fonction qui pensent vraiment à l'équilibre du social de leurs concitoyens. Parce que sur base de ce qui se fait, un Congolais enseignant de la couche moyenne qui a convenablement étudié, et qui se dit vrai Congolais de père et de mère, qui se soumet à tout comme citoyen congolais, serait-il vraiment content et heureux de voir par exemple que la même prévision budgétaire m'alloue des sommes consistantes que pour les frais de fonctionnement de certaines institutions et des salaires de 2 ou 3 institutions seulement. Et comment nous expliquer, par exemple, que le salaire d'un honorable député, nous n'avons rien contre nos honorables députés ou les sénateurs, mais on ne peut pas comprendre qu'un député qui est gradué, qui est licencié, un député qui a été, par exemple, un avocat qui a été enseignant du secondaire se retrouve au Parlement, on lui donne 10 000 dollars, et un enseignant qui forme pendant 50 ans, 45 ans, 35 ans, on lui donne 118 dollars. Mon ami Gérard, je vois que devant de telles injustices, si nous devons nous taire, nous allons léguer à nos enfants, à nos neveux, un pays sans vision, un pays sans base judiciaire. Sur base de quelle justice on peut donner à un sénateur 15 000 dollars à un honorable député, $10 à un étudiant, on lui donne encore $500. Moi, je crois que nous ne militons pas pour que nos papas d'enseignants, nos papas de la fonction publique deviennent tous des honorables députés. Non. Mais nous voulons qu'on honore quand même ce que chaque Congolais fait. Parce que je venais de faire des calculs. La moyenne des $10, si on doit l'utiliser par 118, ça donne 84,7. Ça signifie que nous prenons 84,7 divisé par 12, ça fait que ça donne le salaire des mois de $10 pour un député, ça serait l'équivalent de 7 ans pour un enseignant. Nous sommes dans quel pays et nous voulons que la FDC se développe. Nous disons que nous sommes un état de droit, nous nous disons un état souverain, nous disons le peuple d'abord, et le peuple d'abord, c'est en tournant aux 20 000, aux autres 13 000, et à ceux qui travaillent pour le développement intellectuel d'une nation. On ne les reconnaît pas, on ne les honore pas. Mon ami Gilles, on ne peut pas se taire. Je crois que cette fois-ci, que nos parents, nos frères, nos enseignants, puissent vraiment réclamer s'ils vont rester à la maison, qu'ils restent, parce que on ne peut même pas comprendre qu'on leur demande d'aller commencer en novembre, on tiendra compte novembre. Rien ne sera fait, ça sera au mois de février, rien ne sera fait.
Voilà, merci beaucoup Franck d'avoir appelé. Je crois que la ligne derrière s'est coupée. On va écouter Ernest. Ernest, vous êtes à Matadi. Ernest, bonjour.
Bonjour JR et bonjour aux amis de Rukapi.
Quel est votre avis par rapport à cet échange?
Merci beaucoup JR. Je crois que j'ai des larmes aux yeux lorsque je constate que les budgets viennent du gouvernement où on crie chaque jour que nous avons mobilisé beaucoup d'argent. Il n'y a plus de voleurs de la République, il n'y a plus de détournement à outrance, et ces gens qui proclament chaque jour le peuple d'abord, et ce peuple se retrouve dans l'enseignement, les enfants se trouvent dans l'enseignement, les services, les vieux papas qui les ont sont dans l'enseignement et dans la fonction publique, je ne comprends plus rien, qu'est-ce qui se passe. Ces députés, ces sénateurs, qui veulent se taper la part des lions, je ne sais pas, ils viennent de quelle société? Comment ils doivent avoir à l'imagination d'adopter un budget?
Ernest, le budget n'est pas encore adopté, mais nous avons en face de nous un problème. La rentrée devait intervenir le 4 octobre, et la synergie du syndicat des enseignants s'est retrouvée en assemblée générale et a décidé qu'on puisse repousser au 1er novembre, question de régler quelques problèmes, notamment les barèmes salariales, les problèmes de paiement des nouvelles unités, de résoudre la question de zones salariales qui semblaient être également discriminatoires, et aussi la question de la retraite. Aujourd'hui, est-ce que pensez-vous que c'est légal que les enseignants montent encore au créneau, comme vous êtes un enseignant, de pouvoir menacer? Ça commence un peu à ressembler à un refrain qu'on écoute dans un disque débrayé.
Les revendications des enseignants seraient déjà élaguées si seulement si les orientations budgétaires présentaient ou prenaient en compte toutes ces revendications qui datent depuis des années. Or, il y a aussi un problème, un triste problème. Comme l'État ne veut pas prendre les choses au sérieux, il a souffert les enseignants, non seulement les publics, mais aussi parce que l'État a gardé le système privé et le système public. Ces deux systèmes qui fonctionnent côte à côte ont des sérieux problèmes. Tant que l'État, les écoles publiques ont des problèmes, les privés aussi ont d'autres problèmes. Donc il faut que les lignes budgétaires présentent les solutions adéquates par rapport aux revendications du système éducatif.
Oui, mais ça semble être un problème sérieux.
Si on ne sait pas.
Oui, Ernest, ça semble être un problème sérieux parce que aujourd'hui, les nombres d'écoles que comptait la RDC, quand je parle des écoles publiques, Et parmi ces écoles, aujourd'hui, on compte un nombre important d'écoles qui ont été désactivées illégalement, injustement.
Mais c'est comme ça que je dis, il fallait le ministère de PST, CECOP et tous ces services-là qui fonctionnent dans l'enseignement, et le gouvernement, et les banques syndicales se retrouvent pour réétudier l'état de toutes ces écoles là-bas. Et il résout le problème une fois pour toutes, au lieu que chaque rentrée scolaire qui ait les mêmes problèmes qui reviennent, les salaires, les ajouts.
Oui, mais quel syndicat?
Comment l'État fonctionne sans connaître le nombre réel des enseignants qui fonctionnent et qui sont payés? C'est parce qu'ils votent le budget. Alors oui. Pourquoi ils ont ce budget? À quoi ce budget est
voilà. Affecté? Alors, mais, si on connaît pas rencontrer quel syndicat?
Et ces salaires là-bas.
Oui, rencontrer quel syndicat? Parce que depuis Macaire, pour ne pas les citer, il y a eu ces problèmes des doublons de syndicats, je ne sais pas, de multiplicité de syndicats, on ne sait pas quel est l'interlocuteur du ministère des tutelles.
Le doublon de syndicats est possible parce que c'est le gouvernement qui joue cette échelle-là, qui double pour les syndicats qui sont proches du gouvernement pour nuire ceux qui ont les véritables revendications et qui ont l'assistance des enseignants. Est-ce que vous vérifiez dans ce syndicat là-bas, qui sont proches du gouvernement? Mais vous allez voir qu'ils n'ont pas de membres. Ce sont les staffs techniques qui sont en contact avec les gouvernements, qui se présentent comme... Et comme le gouvernement trouve que ces gens sont à leur faveur, ils s'accrochent à ces gens-là. Non, il y a des vrais, véritables leaders qui parlent avec les enseignants dans les assemblées générales. Maintenant, lorsque nous le savons, je crois que la solution des salaires doit être discutée par rapport au budget affecté. Il faut que ce budget puisse amener des réponses sérieuses pour que, d'ailleurs, lorsque les enseignants demandent de nouvelles idées, que le gouvernement nous a budgétisé les cas de tous les enseignants, on a éliminé les zones salariales, qui vont revendiquer ces éléments là-bas. Donc c'est le gouvernement qui doit, à partir des moyens financiers mis à l'enseignement, au niveau de l'enseignement, ça va élaguer toutes les questions qui dérangent l'enseignement. Les enfants ont perdu beaucoup de temps à la maison avec les solutions de Covid. Mais le retard est encore raté, surtout que le système est déjà là. Alors, on va continuer à discuter à chaque rentrée des frais scolaires. Je vois que le gouvernement doit être responsable pour résoudre une fois pour toutes, même si ce n'est pas à 100%. Même à 95%, ce serait un pas. Les enseignants ne sont pas des malades mentaux. Ils comprennent les difficultés du pays, mais eux disent qu'ils récupèrent, ils sont en train de mobiliser de l'argent pour résoudre les soucis du pays.
Merci beaucoup.
Nous
merci
voulons qu'on résoudre le problème de l'enseignement une fois pour toutes. Et équilibrer le fonctionnement entre l'école privée et l'école et l'enseignement public.
Merci beaucoup, Ernest, d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Alors, Kalo Kaloji, vous êtes à Boujimaï. Est-il responsable de pouvoir reporter la date de la rentrée?
Est-il responsable de pouvoir reporter la date de la rentrée?
Oui, Kalo, vous êtes avec nous? Kalo, Kalo, vous êtes avec nous?
Oui, allô? Allô?
Kalo, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alors, je disais tout à l'heure, est-ce qu'est-il responsable de reporter la date de la rentrée, comme le propose la synergie des syndicats des enseignants?
Qu'il n'y ait pas la rentrée les 4. Reporter encore, c'est plus pire. Vous savez que cette histoire ici qui arrive, ce n'est pas une surprise pour nous. Parce qu'on est déjà habitué. Vous savez que c'est au niveau de la rentrée scolaire que aussi ces revendications plutôt trouvent vraiment un bon lieu. Parce que regardez vous-même, regardez d'abord les budgets déposés aujourd'hui là. Si vous comparez notre budget et la part allouée d'abord au secteur éducatif et comparez avec le Rwanda ici. Vous savez, le Rwanda ici nous présente un budget de l'éducation plus élevé que nous. Mais si aussi longtemps que nous cherchons à trouver une solution et que le budget alloué d'abord à ce secteur pose problème, moi je trouve qu'il n'y aura pas de solution. Mais ce qui est important actuellement dans notre pays, d'abord, regardez là même, on a enlevé sur la liste de beaucoup d'écoles d'abord, qui étaient d'abord fictives. Moi je me dis, la part là, de ces écoles-là qui étaient vraiment illégales, comment cette part-là ne peut pas vraiment combler aussi ces vides? Les revendications sont réelles dans notre pays, c'est dans tous les secteurs. Mais ce qui est important, voyez d'abord les budgets actuels. Quand on a déposé, il n'y a que le gouvernement, le parlement, la présidence qui prend beaucoup de sommes, mais pourquoi pas dans le secteur éducatif. Moi, je trouve que le plus important ici, c'est le budget. Aussi longtemps que le budget est faible, moi, je ne vois pas ce qu'on va résoudre actuellement. Reporter ou ne pas reporter, moi, je trouve que c'est inutile. Mais ici, les responsables, c'est d'abord le gouvernement. Le gouvernement doit prendre en charge ses enseignants. C'est leur papa. Le papa de ses enseignants, c'est le gouvernement. Le gouvernement doit faire tout. Regardez, par exemple, ici chez nous, est-ce que pour d'abord recenser d'abord les vraies écoles, est-ce que ça pose un problème? Même ici au Kassai Oriental, recenser, si on me donnait moi cette tâche-là, je peux déceler déjà des problèmes. Mais ce qui est important, c'est les budgets. Si on n'a pas les budgets consistants dans ce secteur, en tout cas, il n'y aura pas de solution. C'est ça ma contribution.
Merci beaucoup, Kalo Kaloji, d'avoir appelé et d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission 081-890-6330 pour intervenir dans ce programme.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, nous retrouvons à nouveau Jean Bosco Pouna, le porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants. Vous êtes en même temps le secrétaire général du Sinecat. Alors Jean Bosco, vous avez suivi les uns les autres, c'est vrai. Il y a tout le monde qui est d'avis, hein, qu'effectivement les enseignants ne doivent pas demeurer comme des chiens qui aboient et la caravane passe. Cette fois-ci, bon, il y a quelques-uns qui vous ont encouragé à pouvoir aller jusqu'au bout. Mais entre-temps, il y a aussi cette inquiétude de pouvoir reporter la rentrée et finalement pour quelle finalité aussi longtemps que le budget n'a pas changé.
Oui, mais le pouvoir organisateur de l'enseignement, c'est l'État. Je remercie en passant les camarades Simon, Ernest et Franck qui sont intervenus. Je dis que le pouvoir organisateur de l'enseignement, c'est l'État congolais. Je crois qu'il doit être aujourd'hui conséquent par rapport à cette question de l'éducation. Nous avons dit ici que le budget total de la gratuité a été évalué lors de la table ronde qui précédait le lancement de la gratuité. Aujourd'hui, il faut absolument que le gouvernement travaille dans ce sens-là. Atteindre ce montant, évidemment, avec tous les apports qu'il reçoit de ses nombreux partenaires bilatéraux, eh bien, le gouvernement doit mettre des moyens pour atteindre cet objectif-là, afin que la gratuité soit une véritable réalité. Un des auditeurs est revenu pour parler de la croissance, hein, de l'embellie, de la mobilisation des ressources. Aujourd'hui, avec le travail de l'IGF, je crois qu'il y a beaucoup de fonds qui ont été récupérés, mais aussi on a compris qu'il y a eu à un moment donné rétention de certains chiffres. Aujourd'hui là, nous avons une certaine croissance, mais il faut absolument qu'au niveau du secteur de l'éducation, que nous voyons que les choses sont en train de changer. Alors, lorsqu'on revient pour dire que chaque année, eh bien, on commence par la grève. Laissez-moi vous dire que c'est pendant les 2 ans de la gratuité, les enseignants ont soutenu les efforts du gouvernement. Les camarades Simon est revenu pour dire que le gouvernement a payé 132 000 NP, 58 000 NU. Les frais de fonctionnement ont été alloués dans toutes les écoles primaires, mais c'était des efforts que les enseignants ont salués. En 2018-2019, il n'y avait pas de grève. 2019-2020, il n'y avait pas de grève. Donc les 2 années de la gratuité, eh bien, nous sommes comportés en responsables pour serrer la ceinture. Mais maintenant que nous voyons, regardez, au niveau des écoles, même les bulletins n'ont pas été produits. C'est quand même des carences graves. Les enfants sont partis comme ça, sans pièces scolaires. Alors, si aujourd'hui, la qualité de l'enseignement est entamée, mais ça sera un tort que le chef de l'État ait décrété la gratuité. Voilà pourquoi, en tant que syndicat responsable, nous militons pour que la qualité de l'enseignement soit préservée. Et donc, le gouvernement a la responsabilité de pouvoir régler ce problème. Je reviens au niveau de la commission paritaire. Une commission paritaire, la commission paritaire que nous attendons, ça doit être le cadre légal qui est convoqué sous la houlette du gouvernement, c'est-à-dire avec des ministres impliqués sur la question, notamment les ministres de la fonction publique, du travail, des finances, du budget, et aussi les ministres de l'EPC. Il est hors de question que les ministres sectoriels puissent convoquer une commission paritaire, parce que il n'a pas tous les leviers, notamment des finances. Donc c'est une commission paritaire où les gens vont encore toucher les perdiens, mais c'est une commission paritaire qui ne va pas répondre aux attentes des enseignants. Donc nous attendons une vraie commission paritaire. Dans l'entretemps, le gouvernement doit trouver les moyens pour que nous ne puissions pas recommencer les enseignements sur base des promesses. Ça, c'est le cri des enseignants que nous portons, et je crois que le gouvernement va être conséquent.
Voilà. Alors, Jean Bosco, lorsque un auditeur évoquait tout à l'heure les performances réalisées par rapport au gouvernement FCC Cash, alors aujourd'hui, pourquoi le gouvernement des lignes sacrées, des Warriors, n'arrive pas à faire ce que le FCC Cash a pu faire dans 4 mois seulement?
Bon, visiblement, je crois qu'on est en train de se préparer pour les élections. Vous savez que dans ce pays, ce sont des choses vraiment que nous regrettons, parce que les élections ne peuvent pas continuer à nous prendre en otage. Voilà pourquoi nous disons, pour cette fois, eh bien, nous levons, nous allons nous mobiliser et les enseignants ne vont pas recommencer les enseignements. On a à saluer les efforts du gouvernement qui a fait toutes ces promesses. Je ne parle même pas des promesses.
qui ont donné, qui ont multiplié les salaires des enseignants et qui a fait des promesses qu'il allait payer les deuxièmes, les troisièmes paliers. Mais aujourd'hui, là, avec le gouvernement de l'Union sacrée, je crois qu'il faut absolument que le Premier ministre puisse se mettre au travail pour donner, imaginez les enseignants, c'est 600 000 enseignants. Vous comprenez, l'administration publique, vous avez près d'un million d'agents de l'État, mais les enseignants, ils sont 600 000. Donc vous comprenez que nous sommes les effectifs les plus considérables. Mais lorsque vous prenez le secteur de l'éducation, qui est le levier du développement, lorsque ce secteur est abandonné à son triste sort, je crois que c'est ce pays qu'on est en train de vouer à l'échec. Hein, c'est ce pays qu'on est en train de précipiter. Voilà pourquoi nous nous disons, nous sommes des cœurs. Nous savons que le gouvernement a des problèmes, nous sommes de cœur avec les parents, mais il faut absolument que les choses changent. Un autre aspect qu'il faut aborder ici, c'est la résurgence de la motivation dans bon nombre d'écoles conventionnées. Je crois que le ministre de l'EPST doit faire un travail pour demander encore de l'argent aux parents conventionnés, comme les collèges Bonsomi, qui demandent 200 dollars aux parents, pour ne pas les citer. Mais il y a beaucoup d'autres écoles, nous avons la liste dans nos bureaux au Sénégal. Je crois qu'il faut absolument qu'on interpelle ces écoles parce que la gratuité
alors vous craignez que ces écoles conventionnées qui commencent déjà à exiger parce qu'ils ont trouvé la solution à leur manière puissent constituer disons une entorse ou une entrave à votre action parce que vous allez demander d'aller en grève mais ils vont continuer à prester.
Non, mais ce sont des écoles de l'État. Il faut dire que l'État doit mettre de l'ordre. Ce sont des écoles de l'État et on doit protéger les enfants qui sont dans toutes ces différentes écoles. Ce sont des écoles publiques.
Oui, mais ça sera l'avantage de l'État parce que l'État va dire il y a eu la rentrée effective.
Mais non, tout en sachant qu'effectivement, ces écoles-là diront que la gratuité, c'était de la poudre aux yeux. Aujourd'hui, nous savons que la gratuité a été entérinée par le président de la République. Il tient à cette gratuité. Voilà pourquoi on a réajusté les salaires des enseignants, on a donné les frais de fonctionnement aux différentes écoles. Mais nous avons dit qu'il faut aller dans une approche progressive. C'est ce que nous demandons au gouvernement. Maintenant, on a besoin de nouveaux barèmes. Ces barèmes-là doivent être payés pour permettre aux enseignants de faire correctement le travail. L'année passée, beaucoup d'enseignants étaient démotivés. Les enseignants se plaignaient. Je vais rappeler ici les principes du carré pédagogique. Mmh. Dans le carré pédagogique, vous avez le maître, donc l'enseignant, le facilitateur. Mmh. Vous avez l'apprenant, vous avez la matière et vous avez l'environnement des apprentissages. Quand vous prenez le carré pédagogique, c'est ce qui doit être mis en exergue pour que la gratuité réussisse. Mais regardez l'enseignant, il est logé vraiment tel qu'on ne peut pas comprendre qu'il puisse continuer à faire le travail. On veut lui donner une retraite qui n'en vaut pas la peine. Vous prenez le cas de l'élève. L'élève s'est plaint l'année passée parce qu'il n'avait plus la matière voulue. Les devoirs n'étaient plus donnés. Vous prenez l'environnement des apprentissages. Nous avons des classes pléthoriques et ça ne permet pas que les élèves respirent normalement. Il y a même un paradoxe entre les effectifs pléthoriques et les mesures de distanciation. Vous comprenez? C'est des véritables paradoxes. Parce que comment en même temps vous devez respecter les mesures barrières, les mesures de distanciation, mais en même temps on a une centaine d'élèves dans nos salles de classe. Donc les environnements des apprentissages également, aujourd'hui, n'est pas véritablement propice. Donc autant des problèmes que le gouvernement doit régler, nous savons que le gouvernement est confronté à beaucoup de défis, mais il faut y aller dans une approche progressive, et c'est ce que demande la synergie. Donc voilà. La commission paritaire qui devrait résoudre les problèmes doit être
Convoquée.
Il faut un comité préparatoire pour que nous puissions déterminer les matières à débattre et qu'on trouve des solutions aux problèmes qui sont posés par les enseignants.
Voilà, merci beaucoup. Alors, le temps pour nous d'évoluer avec Marie-Paul. On vous garde encore en ligne, Jean Bosco Pouna. Marie-Paul, vous êtes à Kisangani. Bonjour Marie-Paul.
Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à tous les auditeurs ainsi qu'à votre invité.
Alors selon vous, est-il responsable de reporter la rentrée scolaire au 1er novembre comme le propose la synergie des syndicats des enseignants?
Oui, d'entrée déjà, il faut d'abord dire que monsieur le journaliste, le secteur de l'éducation nationale de la RDC mérite une attention particulière. Et cette attention fera en sorte qu'on puisse éradiquer un peu de manière totale des problèmes qui influencent mal la formation des jeunes en RDC. Et d'ailleurs, si nous voyons les nivellements vers le bas, dont fait l'objet le secteur de l'éducation nationale en RDC, c'est amplement justifié par la démotivation effective et des traitements criés un peu des enseignants. Et par rapport aux différentes revendications dont les enseignants soumettent justement aux gouvernants, et parce que toutes ces revendications ne trouvent pas d'écho favorable. Nous sommes en train de vivre des choses qu'on ne devrait pas vivre dans cette mission qui est vraiment vitale de la formation des jeunes en République démocratique du Congo. Alors, et tout cela, lorsque nous voyons, il n'y a pas vraiment intéressant, monsieur le journaliste, pour l'intérêt supérieur de la nation, de constater que chaque année, les choses ne tournent pas dans les secteurs de l'éducation nationale dans notre pays. Ce n'est pas intéressant. Et on devrait justement faire tourner les choses là-bas, en fait que les conditions socio-économiques des enseignants, et qui sont des monteurs dans le processus de l'éducation, soient quand même améliorées. Et c'est là... devraient nécessairement bénéficier de leur salaire. Et vous savez, vous êtes travailleur. Lorsque un travailleur travaille, c'est pour que sa vie soit quand même noble. Mais si un travailleur n'a pas les salaires, je pense que vous pouvez moraliser. Vous pouvez arrêter des programmes et dans la gestion du personnel, je pense que vous aurez justement des problèmes pour que les objectifs soient atteints. Et voilà pourquoi l'éducation nationale dans notre pays n'atteint jamais les objectifs assignés par l'État. Et qu'est-ce que nous remarquons? Nous sommes en train plutôt de créer des criminels instruits, des gens qui ne maîtrisent pas le bien fondé de l'éducation. Alors, le pays évolue dans ce secteur-là, nous évoluons de grève en grève. On en a quand même marre. Si vous répertoriez les statistiques des grèves que les enseignants ont décrétées dans ces pays, ça laisse quand même à désirer. Ça montre en suffisance que nos gouvernants sont en train peut-être de faire la sourde oreille et de ne pas comprendre qu'il n'y a rien compris, c'est un peu revoir des choses dans l'amélioration pour éviter. Parce que si on ne le fait pas, nous allons faire des rentrées et arrêter des programmes. Nous allons justement à assister à des problèmes et que les solutions s'éloignent aussi longtemps que ces solutions ne sont pas encore trouvées.
Merci beaucoup, Marie-Paul.
Nous sommes en train de passer l'étape. Voilà
merci
pourquoi,
beaucoup.
Pour terminer, monsieur le juge,
vous avez déjà épuisé de votre temps. Merci beaucoup,
oui,
Marie-Paul. Jérémy est là, Lubumbashi. Jérémy, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur JR.
Oui, rapidement, quel est votre avis?
Bonjour également à l'invité. Je pense que l'expression, la liberté d'expression étant clairement définie dans notre constitution, mais j'adhère, je suis tout à fait d'accord avec les revendications, bien sûr, des syndicalistes au sujet des enseignants. Certes, c'est une bonne chose, mais là où je ne suis pas d'accord, c'est quand on doit, c'est-à-dire instruire à l'État, de pouvoir, on impose un barème salarial à l'État. Ça, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est l'État qui doit définir clairement la politique des choses, mais il n'appartient pas aux syndicalistes de pouvoir imposer les salaires. Ça, c'est inacceptable. Alors, je voudrais à ce stade, parce que j'en interpelle à l'État congolais de pouvoir trancher, traiter de ces dossiers des enseignants une fois pour toutes. Jusqu'à quand l'enseignant aura sa valeur. Parce que si on connaît la valeur de l'éducation dans un pays, on doit donner de l'estime à celui qui est censé passer, qui donne la production des savoirs. On ne peut pas produire, parce que lorsque on donne de l'estime à ceux qui œuvrent dans les institutions, on oublie ceux-là qui produisent les savoirs. Là, ça ne va pas. Alors moi, je veux qu'à ce stade, dans le budget, dans le projet de budget de 2022, il faut que réellement les gouvernements s'y attellent pour définitivement
régler ces problèmes.
Régler ces problèmes parce que nous en avons des trop. L'enseignant doit avoir un salaire honorable parce que c'est lui qui engage l'avenir du pays. Et tous ces cadres qui sont formés passent par ces pauvres enseignants. Alors, il revient aux gouvernants de pouvoir statuer sur ce problème et résoudre ce problème et leur donner un salaire honorable, digne de l'éducation. Parce que l'État, les miniers travaillent, produisent les minerais, mais il y a des gens qui produisent les savoirs pour contribuer à la progression du pays.
Merci
mais
beaucoup, Jérémy.
Ils sont marginalisés. Là, je me dis que non, quelque part, il y a
voilà, merci beaucoup. Merci Jérémy. Alors on revient à vous. Amos est là? Amos?
Je suis là, JR.
Vous avez la parole, Amos.
Merci bien. Au fait, nous sommes en train de suivre tout ce la cacophonie qui existe juste à la veille de la rentrée scolaire. Mais je voudrais te signaler que tout État sérieux a trois secteurs prioritaires. Parmi ces trois secteurs prioritaires, il y a la sécurité, il y a l'éducation et la santé. Malheureusement, en RDC, comme nous avons toujours connu des dirigeants qui n'aiment pas le peuple congolais et qui n'aiment pas le pays, voilà les débats que nous cessons de débattre aux médias et même dans l'opinion. Et c'est très grave pour ce pays. Les revendications des enseignants sont nobles. Quand ils peuvent exiger la suppression des zones salariales, tout le monde peut soutenir parce qu'on ne comprend pas comment un enseignant de Kinshasa ne peut pas toucher comme un enseignant de Bukavu ou même du Diofa de l'Équateur. Ça, c'est une discrimination à mon avis. Deuxième chose, ils réclament un salaire de ça. C'est de leur droit. Je l'ai dit dernièrement. Plus de 2 millions de dollars, il y a plus de 100 000 dollars comme salaire net, à part les avantages. Et dire qu'on va donner à un enseignant moins de 200 000 francs, un militaire, un policier. Nous sommes où finalement? Et c'est là que je ne cesse de poser des questions aux gens. Qui peut m'expliquer encore aujourd'hui le sens du slogan « Les peuples d'abord » Qu'on m'explique le sens de ce slogan-là, pour qu'on comprenne. Et c'est là que j'ai dit, si réellement le régime en place réellement travaillait pour l'intérêt du peuple congolais, en arrivant, on devait d'abord réduire les trains de vie de certaines institutions. Là, je vois la présidence, le Sénat, l'Assemblée, le gouvernement, même jusqu'au niveau de la base, pour qu'on comprenne que non, ce régime est venu travailler pour le peuple, ce qui n'est pas le cas. Ce qui est vrai, j'ai encore peur que l'année scolaire risque d'être perturbée, et cela sera au détriment de nos enfants. Et les enfants de nos dirigeants tous étudient en Europe dans de bonnes conditions. Et ils préfèrent abandonner nos enfants à leur triste sort. Tout simplement parce qu'ils sont égoïstes. Et ils ne nous aiment pas. La réunion des enseignants s'est tenue au Sud Kivu, qui a réuni la province du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et le Tanganyika. Et tous à l'unanimité ont dit, on ne rentre pas si du moins le gouvernement en place ne répond pas à leurs exigences. Et ça, nous soutenons. Mais nous avons une inquiétude hier, parce que les enseignants ont toujours aussi joué au malin. Ils risquent de nous distraire et quelques semaines après, ils vont rentrer. Non, on nous a appelé au niveau du gouvernement, on a dit, on va voir cette fois-ci comment répondre à nos revendications au fur et à mesure. Et ça sera une perturbation totale pour ceux qui sont de nos enfants. Oui. Moi, j'ai dit, si les enseignants sont cette fois-ci décidés, qu'ils se décident une seule fois pour toutes et qu'ils mettent ce gouvernement de honte devant responsabilité.
Merci beaucoup.
Dans le cas contraire, ça sera encore de la distraction et la situation ne va pas.
Ça va le discréditer. Merci beaucoup, Amos. Alors, on va terminer avec vous, Jean Bosco Puna, porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants. Vous avez suivi les uns les autres, surtout le dernier intervenant, Amos, qui vraiment souhaite que l'action que vous allez mener soit une action responsable. Question de ne pas perturber le calendrier qui a déjà été réaménagé suite à l'impact négatif de la COVID-19.
Oui, je crois que tous ces conseils sont les bienvenus et les enseignants sont les mieux à comprendre cela. Malheureusement, ce sont les conditions de travail, les conditions sociales qui ne nous permettent pas de pouvoir correctement faire le travail. Vous savez qu'il y a un des auditeurs qui a parlé du barème qu'on impose au gouvernement. Non, nous n'imposons rien au gouvernement. Le barème qui est proposé, c'est un barème qui a été discuté, qui a été négocié avec le gouvernement. Nous rappelons simplement l'obligation pour le gouvernement de pouvoir payer ce barème pour que les enseignants fassent correctement le travail de l'éducation. Aujourd'hui, nous tous, nous savons qu'il y a les rames qu'on nous impose. Ça, c'est quelque chose qu'on nous a imposé. Par contre, nous ne savons pas la destination de cet argent. Donc vous comprenez qu'en ce qui concerne le barème salarial, c'est un barème qui doit être discuté et dans une condition paritaire. Donc pour nous, la détermination va dépendre des enseignants eux-mêmes. C'est les enseignants, c'est nous qui vivons au quotidien les difficultés de notre métier. Je crois que pour cette fois, en tout cas on est déterminés pour que nous puissions jouir de ce slogan. le peuple d'abord. L'enseignant fait partie du peuple. Il faut absolument qu'il soit protégé et qu'on protège également les enfants congolais qui ont droit à une éducation de qualité. Donc la matière qui doit être donnée au niveau des classes, ce sont des matières qui sont données par l'enseignant. L'enseignant doit être mis dans les bonnes conditions de travail pour que cela puisse marcher. Il faut absolument que l'État revoie sa copie. Il faut que l'État comprenne qu'il n'y a pas que les politiques qui doivent toucher des salaires faramineux, mais les enseignants ont droit aussi à la vie.
Voilà, merci beaucoup Jean Bosco Puna. Nous rappelons que vous êtes le porte-parole de la synergie des enseignants du Congo. Et merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir accepté d'échanger avec l'ensemble de la population. Demain, nous aborderons la question sur les budgets. Le budget qui est en discussion au niveau du Parlement, selon les informations à notre possession, le Premier ministre l'a déjà déposé et que les copies ont été insuffisantes. On n'a pas suffisamment de copies pour distribuer à tous les députés. Et quand il sera fait, et le débat sera engagé au niveau du Parlement. Donc nous allons revenir avec vous donc demain dans cette même émission. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.